Voici les titres du journal.
Les comptes 2020 de l'État du Valais vont occuper cette semaine les députés. La mouture laisse apparaître un excédent de revenus de 2,3 millions de francs alors que le budget prévoyait un surplus de charges de 123 millions. Explication dans ce journal. 36,6 millions de francs pour permettre à trois lignes ferroviaires touristiques d'effectuer des travaux. C'est ce que demande le Conseil d'État vaudois au Grand Conseil. Les transports publics du Chablais et les transports Montreux-Vauvert-Riviera sont visés. La communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoises évolue. Elle a adopté sa nouvelle stratégie appelée Force 2035 à la mi-mai, prévoit de regrouper toutes les offres de la région sur un seul et même site internet. Ouverture espérée de la plateforme en septembre. Et en tennis, Roger Federer aurait dû disputer son 8e de finale de Roland-Garros aujourd'hui à Paris. Mais après avoir décroché une qualification dans la douleur samedi soir, le Ballois a préféré se retirer du tournoi.
Et pour la météo, de nombreux nuages sont attendus cet après-midi avec des averses et des orages. Demain, du soleil le matin, du soleil aussi l'après-midi, mais avec de nombreux nuages. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal que nous présente Valérie Blom. Bonjour Valérie.
Bonjour. Les députés valaisans se penchent cette semaine sur les comptes 2020 de l'État du Valais. Ce matin, ils ont franchi une première étape en acceptant l'entrée en matière à l'unanimité. Didier Morard, vous êtes sur place à Brigue. Les résultats de l'État du Valais sont meilleurs que prévu.
Oui, et ce malgré la pandémie de coronavirus. Les comptes 2020 de l'État du Valais affichent un excédent de revenus de 2,3 millions de francs, alors que le budget prévoyait un surplus de charges de 123 millions. Alors, plusieurs éléments expliquent cette embellie. Tout d'abord, la part du canton au bénéfice de la Banque Nationale Suisse. Elle a atteint 107 millions de francs contre 26,5 millions budgétisés par le Conseil d'État valaisan. Autre explication, le prélèvement du fonds CPVAL, la caisse de pension de l'État du Valais, qui a été plus important que prévu au budget. On peut également noter la progression des subventions fédérales dans le domaine de la mobilité, plus 234 millions de francs qui proviennent essentiellement de l'enregistrement des recettes perçues l'an dernier dans le domaine des routes principales suisses. Enfin, un dernier élément d'écart avec le budget, les impôts encaissés par le service des contributions. Si les recettes ont diminué de 11 millions pour les personnes physiques, les impôts des entreprises et ceux sur les successions et donations ont augmenté respectivement de 23 et 21 millions de francs.
Didier, l'écart entre les budgets, entre le budget et le compte est aussi notable dans les charges.
Oui, les charges ont augmenté de 499 millions de francs, soit une hausse de 13,9%. Parmi les écarts les plus remarqués, les charges de personnel qui ont pris l'ascenseur de 196 millions de francs en raison notamment de la réforme de la CPVAL, toujours cette même caisse de pension. Enfin, la crise de coronavirus a aussi impacté les charges, mais moins que prévu. Une partie des montants n'a pas été budgétisée en raison de la loi Covid-19 qui sera votée le 13 juin prochain au niveau national. Il s'agit de la base légale qui définira les aides de la Confédération au canton.
Didier, les chiffres de l'État du Valais sont dans le noir, de quoi réjouir, on l'imagine, les députés.
Oui, tous les chefs de groupe ont salué de manière globale le travail de l'administration cantonale et du Conseil d'État. Toutefois, ces prises de parole sont souvent le moyen pour les députés de faire part de leurs remarques et autres suggestions. Parmi elles, celles sur les dépenses. Le PLR et l'UDC ont pointé du doigt les charges qui augmentent année après année. Et Grégory Laujean, chef du groupe UDC, de comparer les charges de l'État du Valais, 4 milliards à la Bundesliga. Pour les Rinsards, le Valais a davantage dépensé que les 18 clubs de la première ligue de football allemand. Comme sa collègue du PLR, Grégory Laujean a dénoncé les charges de personnel qui ont doublé en 10 ans, en passant de 620 millions en 2010 à 1,2 milliard l'an dernier. Une remarque que ne partagent pas les socialistes. Selon le montaisan Blaise Caron, les charges du personnel ont été parfaitement maîtrisées. Notons que les Verts et le PDC ont salué la réactivité de l'État du Valais face à la crise sanitaire. Les deux groupes ont tout de même fait part de leurs craintes quant à la suite et à la répercussion future de la crise sanitaire sur les finances de l'État du Valais. Et Roberto Schmidt, conseiller d'État chargé des finances, de conclure sur ce sujet et de défendre sa mouture. Le démocrate chrétien s'est notamment félicité des investissements de l'État du Valais qui ont été conformes au budget, et ce malgré la pandémie de coronavirus. Par ailleurs, le Haut-Valaisan a rappelé que le Valais était le premier canton à verser des aides Covid. Par contre, l'État n'a pas encore été soutenu. Mis à part les aides culturelles, le Valais n'a pas encaissé un franc de la Confédération pour les dépenses Covid. Les aides de Berne viendront s'inscrire dans les comptes 2021 et 2022 qui seront sans doute plus fortement marquées, fiscalement parlant, par la crise sanitaire.
Merci beaucoup Didier pour ces explications. Précisons que les comptes seront analysés département par département durant toute la semaine.
Le Grand Conseil vaudois est invité à valider un crédit de 36,6 millions de francs.
La demande a été formulée il y a quelques jours par le Conseil d'État. Elle concerne trois lignes ferroviaires, deux des transports Montreux-Vevey-Riviera et une des transports publics du Chablais. Le crédit est le résultat de calculs et de discussions. Précision avec le directeur des TPC, Grégoire Prat, qui donne l'exemple de la ligne B-École de Breteuil, qui doit bénéficier d'un soutien financier.
C'est clairement un accord entre la Confédération et le canton de Vaud qui permet de dire qu'on fait une clé sur l'ensemble des investissements de la ligne et pas que sur le tronçon touristique, le canton, puisqu'on a quand même un point commun qui est la gare de Villars et puis qu'il fallait de toute façon répartir ce point. Donc c'est vraiment maintenant une clé qui est décidée, 20% pour le canton de Vaud, 80% pour la Confédération sur l'ensemble de la ligne. Et alors bien sûr, on a plusieurs projets qui concernent autant le haut, mise en conformité à Lande hein, pour toutes nos haltes entre Villars et Breteuil, la gare de Villars, la sécurisation entre Arveil et Villars, tous des projets qui sont étudiés et qui sont financés d'une part par le canton et de l'autre part par la Confédération.
Vous parliez de la gare de Villars, qu'est-ce qui est imaginé ?
Nous étudions maintenant la sécurisation entre Arveil et Villars. C'est le tronçon, nous sommes vraiment sur la route, et comment on peut sécuriser tout ça, et ça a bien sûr un impact sur la gare de Villars, autant la gare d'arrivée depuis B que la gare de départ en direction du col de Breteuil. Donc ça évite peut-être des investissements importants. Mais là, c'est phase d'étude pour le moment.
Des propos recueillis par Margot Reguin. Les travaux pour la ligne B École de Breteuil, financés par le canton de Vaud, se montent à plus de 10 millions de francs. Il faut compter quelque 26 millions pour remettre au goût du jour les désinstallations situées entre la ligne Vevey-les-Pléiades et Montreux-les-Rochennais, gérées par les transports Montreux-Vevey-Riviera. Nouvelle annulation pour la foire de bétail des Creusets. Les organisateurs ont annoncé ce matin reporter l'édition anniversaire à l'année prochaine. Ceci faute d'assouplissement suffisant des restrictions liées à la pandémie. La 30e édition devait se tenir le 21 août. Chaque année, la foire réunit plus de 1300 personnes. Les lauréats du prix Valaisan Apprendre à entreprendre sont connus. Ce programme invite les étudiants et apprentis de 16 à 19 ans à créer et faire vivre une vraie entreprise durant une année scolaire. Le projet de verre gravé avec des citations de l'École de commerce et de culture générale de Sion remporte l'édition 2021. Ceux de la Galerie d'art en ligne et de l'ECCG de Martigny et de Gourde économique et écologique afin de lutter contre la pollution due au plastique à usage unique du lycée-collège des Creusets à Sion occupent quant à eux les deuxièmes et troisième place.
Les victimes de violences peuvent désormais bénéficier de consultations spécialisées en Valais.
Lesquelles sont dispensées par l'unité de médecine des violences. Cette nouvelle structure, installée à l'arrière de l'hôpital de Sierre, est ouverte aux jeunes et adultes à partir de 16 ans. Elle permet de garantir un espace d'écoute, un examen clinique et une orientation dans le réseau valaisan de soutien aux victimes. Le Valais et les Grisons enregistrent la plus forte baisse de taux de chômage de Suisse en mai. À la fin du mois, 5 815 personnes étaient inscrites dans les offices régionaux de placement. Le taux valaisan s'est ainsi établi à 3,3%, soit 0,2 points de pourcentage supérieur au taux national. Du côté vaudois, le chômage est aussi en baisse. Il recule de 0,2 points par rapport à la fin avril pour s'établir à 4,2%. Cette amélioration mensuelle est principalement due aux effets saisonniers et aux assouplissements progressifs des mesures de restriction liées à la pandémie.
La communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoises avance ses pions.
Réunie en assemblée générale à la mi-mai, ses membres ont adopté une nouvelle stratégie intitulée Force 2035. Elle vise à renforcer l'attractivité de la région. Un objectif déjà présent avec sa stratégie précédente appelée Alpes vaudoises 2020, dont le bilan est tiré par Jean-Marc Udriot, président de la CITAV.
Il est très très positif parce que finalement c'est un horizon de 10 ans. Nous avons pu mettre en place la gouvernance avec la création de la communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoises. Nous avons pu obtenir des montants relativement conséquents, hein, jusqu'à hauteur de 46 millions pour les remontées. C'est des fonds perdus donc, hein, pour les remontées mécaniques et l'enneigement. Des projets hôteliers ont été soutenus également dans toutes les Alpes vaudoises. Donc vraiment, ce constat est très positif. La collaboration entre nous déjà au niveau des Alpes vaudoises est excellente. Et puis à part ça, vous avez également la collaboration avec les services cantonaux et bien évidemment les autorités politiques au niveau cantonal qui nous ont soutenus et ont bien compris nos enjeux.
Dans ce qu'on avait lu dans les objectifs des Alpes vaudoises 2020, il y avait l'idée de relier le village des Diablerets à Glacier-Trois 3000, idée qui a été finalement abandonnée. Pourquoi ?
Alors ça, c'était le concept de mobilité régionale où on faisait la liaison des domaines skiables par les hauts. Il y avait la ligne Diableret-Glacier, il y avait aussi la ligne Lézin-Roc d'Orsay hein, pour aller du côté de Villars. Et puis, lorsqu'on a pris langue un petit peu avec les forces de la nature, hein, les ONG, eh bien, on a vu que c'était assez compliqué de continuer à défendre ce genre de liaison. Ça allait poser beaucoup de problèmes. C'était cher aussi, à quelque part. Donc, on est revenu à un concept de mobilité qui s'appelle liaison par le bas. C'est entre les destinations touristiques par le biais de soit l'amélioration des têtes de ligne des transports publics du Chablais, soit les lignes postales ou les lignes bus entre les destinations touristiques. Par exemple, la ligne 175 qui est directe entre Châteaudet et Lézin en passant par les Mosses.
Pour ce qui est de l'avenir, les communes ont jusqu'à la fin du mois pour déposer leur projet dans le cadre de Force 2035. Tous doivent être tournés vers le tourisme 4 saisons. Ils seront ensuite examinés par la CITAV qui rendra son préavis. L'objectif est qu'ils bénéficient d'un soutien financier comme ce fut le cas pour Alpes Vaudoises 2020. Une autre information était révélée, le projet de remodelage voulu par la CITAV avance. En septembre, un site internet regroupera toutes les offres de la région. Cela ira des remontées mécaniques aux hôtels en passant par la réservation pour une journée de ski. Toutes les destinations seront représentées. Un changement drastique dans la manière de promouvoir les Alpes vaudoises et le Pays d'en Haut, comme l'explique le coordinateur de la CITAV, Steve Beck.
L'idée pour un office de tourisme concrète, c'est plutôt tout ce qui se passe vraiment localement dans une destination, dans un village, et puis vraiment avoir cette approche client, ce contact client quotidiennement, dans un sens de l'office de tourisme, mais de ne plus ou moins s'occuper du marketing pour faire arriver des gens chez nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, une tâche qui peut être centralisée avec l'aide des personnes qui connaissent bien sûr très bien leur région, leur destination, pour pouvoir vraiment gagner en force de frappe, comme on a appelé ça, pour aussi augmenter, améliorer l'organisation aussi financière ou avec les systèmes technologiques qu'on peut unifier sur un seul au lieu d'utiliser 3 ou 4 ou même plus.
Votre objectif est donc de renforcer la visibilité de la région. Qui visez-vous ?
La stratégie est claire. On doit tout d'abord toucher le bassin lémanique parce que c'est quand même depuis là qu'on traîne beaucoup des propriétaires résidences secondaires. On a aussi beaucoup des excursionnistes parce qu'on est une zone montagne qui est la plus près de ce bassin d'habitation. Et bien sûr, on va aller aussi vers la Suisse alémanique, donc, mais plutôt dans le tronçon Fribourg-Berne-Bâle, plutôt dans cet horizon-là. Et puis bien évidemment, on a aussi des Français, notamment l'Île-de-France, peut-être un peu l'Alsace, et puis aussi le Pays-Bas et Belgique, qui sont des pays d'origine de nos touristes à travers les hôtels qui sont tout d'abord encore exploités ici. Et puis le troisième grand marché, l'étranger, c'est vraiment les Anglais.
La première étape de ce remodelage de la communauté d'intérêt touristique des Alpes vaudoises est donc ce nouveau site internet, puisque les nouveaux projets de développement, même si certains sont déjà connus, comme la cure de jouvence des centres sportifs à Lézin, ces nouveaux projets de développement seront mis en place plus tard. Un dossier réalisé par Margot Reguin. Les revendications de la grève des femmes restent toujours lettre morte. 2 ans plus tard, dénoncent des politiciennes et des syndicalistes. 2 jours avant le débat au Conseil national sur la VS et 1 semaine avant le 14 juin, elles jugent le bilan misérable. La discrimination subie par les femmes pendant leur vie professionnelle en raison de salaires plus bas ou d'une activité à temps partiel s'accentue encore à la retraite, dénoncent aujourd'hui dans un communiqué des femmes syndicalistes et des représentantes de gauche et de la Commission de sécurité de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. L'écart des rentes est indéniable, juge-t-elle. Avec le projet AVS 21 qui sera débattu mercredi au Conseil national, la situation des rentes des femmes va encore se dégrader. Alors que beaucoup de femmes ont déjà des rentes misérables, il est question d'un relèvement de l'âge de la retraite des femmes, ce qui reviendrait à réduire encore de telles rentes. AVS 21 ferme les yeux sur les problèmes existants et n'en résout aucun, critique Vania Aleva, présidente d'UNIA.
Le chômage partiel est en baisse en Suisse.
Selon les résultats présentés aujourd'hui par le secrétariat d'État à l'économie, les réductions d'horaires de travail au RHT ont reculé d'environ 17% de février et mars. Une bonne nouvelle pour le SECO qui doit désormais s'atteler à un nouveau défi, intensifier les contrôles. En effet, avec les procédures simplifiées instaurées l'an dernier, les risques d'abus ont augmenté. Les dénonciations ont d'ailleurs grimpé en flèche. À la fin mai, quelques 900 cas avaient été annoncés et les caisses de chômage avaient signalé 500 décomptes suspects. Pour faire face, les autorités ont débloqué 25 millions de francs supplémentaires. Boris Turcher, chef de la direction du travail du secrétariat d'État à l'économie, nous explique à quoi cette somme va servir.
On a engagé à peu près 40 personnes supplémentaires qui vont effectuer ces contrôles vers les employeurs. Et en plus, bien sûr, ils poursuivent aussi toutes les annonces d'abus qui nous parviennent. Donc c'est pour renforcer les services et ça sur une durée de 3 à 4 ans. L'idée principale est justement, il faut quand même protéger la légitimité, l'intégrité et puis aussi l'acceptance de la RHT qui a fait ses preuves de nouveau dans cette crise. Et on croit que c'est assez proportionnel cette somme.
Pour l'instant, le SECO a effectué 131 contrôles d'entreprise. 10% de ces démarches ont mené au dépôt d'une plainte pénale, tandis que trois quarts des employeurs concernés ont dû corriger leurs décomptes. Des taux qui se situent dans la norme, selon Boris Turcher.
C'est notre conclusion qu'on tire des chiffres qu'on a maintenant. Et il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, beaucoup d'abus qui sont dénoncés comme abus pour finir se montrent comme juste des erreurs qui ont été commises. L'abus, ça inclut aussi une intention de tricher. Et ça, ce n'est pas toujours le cas. Beaucoup de fois, c'est des entreprises qui n'ont jamais eu d'habitude de remplir les formulaires RHT. Ils commettent des erreurs. Et donc, ce qu'on a payé de trop doit être remboursé. Mais ce n'est pas nécessairement un abus dans le sens strict.
Des propos recueillis par notre correspondante au Palais fédéral, Hélène Yost. Avec la réouverture de plusieurs secteurs de l'économie, certains aspects de la procédure allégée pourraient être revus prochainement. Précisons encore que le taux de chômage en Suisse a également diminué le mois dernier. Selon les chiffres du SECO, il s'est établi à 3,1%, soit 0,2 points de moins qu'à la fin avril. Les consultations ont été plus nombreuses dans les centres d'aide aux victimes LAVI en Suisse l'an dernier. La hausse est de 5% par rapport à 2019. Dans la majorité des cas, il s'agit de femmes. Près de la moitié des consultations concernaient des infractions de lésions corporelles et de voies de fait, a indiqué aujourd'hui l'Office fédéral de la statistique. Les consultations en lien avec les infractions contre l'intégrité sexuelle étaient évoquées dans 29% des cas de consultation. La personne conseillée a indiqué dans plus de la moitié des cas que l'auteur présumé de l'infraction était le partenaire ou l'ex-partenaire ou un autre membre de la famille ou de la parenté de la victime. Plusieurs destinations de vacances en Suisse tentent de faire face à l'absence très probable des touristes venant de pays lointains cet été. Les voyageurs des pays voisins, mais surtout ceux helvétiques, sont la cible des campagnes de promotion. En Valais, en tant que région de montagne, on sera privilégié cet été. Mais le niveau des réservations n'est pas celui de 2019, a concédé Damien Constantin, directeur de Valais Promotion. On sera toujours inférieur à il y a 2 ans, car il manquera les 24% de clientèle des marchés lointains dans l'Asie. Si les régions de montagne comptent à nouveau tirer leur épingle du jeu cette année, les destinations urbaines savent que la partie sera plus difficile. À la demande de la Slovénie et avec l'accord des autorités suisses, une équipe d'inspection arrive aujourd'hui afin de procéder à un contrôle des activités militaires de l'armée suisse. Cet examen s'inscrit dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 4 inspecteurs, 3 Slovènes et 1 Espagnol se rendront dans des casernes suisses. Menées tant au sol que dans les airs, l'inspection durera 48 heures au maximum, indique aujourd'hui le département de la Défense. Chaque État participant de l'OSSE peut vérifier sur place si les dispositions convenues en rapport avec les activités militaires sont respectées. Les inspecteurs seront informés des activités militaires en cours et pourront rendre visite aux troupes concernées. Les objets sensibles sont exclus de l'inspection, précise le communiqué. De mars à mai 2021, plusieurs dizaines de plantes ornementales vendues en Suisse étaient infestées par un organisme nuisible dont la présence était jusque-là inconnue en Europe, des cochenilles Rippersilla hibiscii. L'OFAG cherche des acheteurs des plantes infestées. Cet organisme nuisible peut infester des plantes en pot, comme l'hibiscus, le laurier rose ou encore les figuiers et diverses espèces de bonsaï, indique aujourd'hui l'Office fédéral de l'agriculture. Les plantes présentent d'abord un retard de croissance France, puis jaunissent et se flétrissent et finissent par mourir. Les acheteurs de plantes de calestement vendues entre mars et mai 2021 sont priés de contacter au plus vite le service phytosanitaire fédéral pour enrayer la propagation de l'organisme en Suisse.
Le Conseil des États voudrait-il mettre les médias ou pas, qu'il ne s'y prendrait pas autrement?
Il traitera durant cette session de deux propositions susceptibles de réduire les droits des journalistes, d'autant un cri à la censure. À l'inverse, une majorité en commission en tout cas souhaite simplement rééquilibrer les droits et devoirs des médias d'une part, des individus d'autre part. Les explications à Berne, notre correspondant Serge Jubin.
Le premier objet aurait pu passer entre les gouttes, tant la nuance est subtile. Une majorité de la commission des affaires juridiques du Conseil des États veut supprimer le mot « particulièrement » à l'article 266 du Code de procédure civile, un « particulièrement » qui a toutefois tout son poids. Il s'agit des mesures provisionnelles qu'un juge peut prononcer pour interdire ou reporter la publication d'un article susceptible de causer un préjudice à une personnalité. Le projet prévoit de passer d'un préjudice particulièrement grave aujourd'hui à un simple, entre guillemets bien sûr, préjudice grave de demain, explication de texte avec le président de la commission, le Haut-Valaisan du Centre, Béatrice Eder.
La commission a vu que le marché média a totalement changé. C'est pas le petit journaliste qui va au juge contre le riche individu qui veulent censurer, limiter les journalistes et quasiment censurer la presse. C'est l'inverse. On a aujourd'hui en Suisse 3-4 entreprises qui dominent le marché. D'autre part, vous avez des individus comme vous et comme moi qui parfois doivent se défendre contre des reportages, contre des articles. Vous êtes perdus. Il y a la possibilité que le média détruise la vie d'une personne dans 24 heures.
24 heures, le quotidien vaudois du groupe Tamedia, ciblé par Béatrice Eder. Les parlementaires sont-ils tentés par la censure pour s'épargner les attaques médiatiques?
On veut un peu équilibrer les armes. Cette nuance spécialement grave et grave, on peut l'éliminer pour donner un peu plus force pour l'individu. Moi, j'ai aucun problème avec les médias. J'étais toujours bien traité. Mais on a vu qu'il y a des personnes que les médias ont détruit leur vie de travail, leur vie privée. On a donné aux médias beaucoup de liberté, mais on ne doit pas exagérer.
Autre objet qui occupera le Conseil des États, l'accès aux documents officiels rendus possibles grâce à la loi sur la transparence. Problème, l'administration peut conditionner cet accès à des émoluments. Ce n'est en général pas le cas, mais cette simple menace est de nature à entraver, voire dissuader les recherches et les demandes des journalistes. Une initiative parlementaire de la socialiste turgovienne Edith Graf Flitscher veut garantir la gratuité. Tout indique qu'elle n'obtiendra pas de majorité. Pourquoi s'y opposer? Y a-t-il une volonté de museler les médias? Le libéral radical neuchâtelois Philippe Bauer.
Pas du tout. Lorsque le travail qui est demandé à l'administration est un travail très important, ce travail doit être payant. De la même manière que d'autres services sont payants. Parce que la modification proposée réserve quand même bien tout ce qui est simple et là, l'accès aux documents de manière libre et gratuite. Il n'y a pas de volonté de serrer la vis des médias. C'est une réalité que les choses ont un coût et les choses ont un coût aussi pour les médias.
Pourquoi est-ce important de garantir un accès gratuit puis des journalistes aux documents officiels, la verte genevoise Lise Amazon.
Pour la démocratie, c'est important qu'on puisse dialoguer avec ce qui se passe dans l'administration, que ce ne soit pas une boîte noire. Et pour certains médias, les frais qui sont liés à l'accès aux documents officiels peuvent être une barrière ou, si on les additionne au fil de l'année, peuvent s'avérer rédhibitoires. Et ça ne devrait pas être l'argent qui devrait déterminer si une information est rendue publique ou non.
Au-delà des deux dossiers sur la table du Parlement, y aurait-il une volonté qui ne dit pas son nom de mettre les médias et les journalistes au pas? On retrouve les Amazones.
Il y a parfois, surtout au Conseil des États, une certaine méfiance vis-à-vis des médias et peut-être une méfiance vis-à-vis d'une presse de boulevard.
La gratuité de l'accès aux documents officiels, c'est jeudi prochain au Conseil des États. Les mesures provisionnelles pour préjudice grave ou particulièrement grave, c'est pour mercredi 16.
À l'étranger, l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'État militaire le 1er février, sera jugée à partir de lundi prochain en Birmanie, a déclaré aujourd'hui son avocate à l'AFP. Inculpée à 6 reprises depuis son arrestation, Madame Suu Kyi, lauréate du prix Nobel de la paix 1991 pour sa longue lutte contre les précédentes dictatures militaires, fait face à de nombreuses accusations allant de la possession illégale de talkie-walkie à l'incitation à des troubles publics et à la violation d'une loi sur les secrets d'État. Depuis le coup d'État, la Birmanie est en proie à des manifestations de protestation quasi quotidiennes, accompagnées d'un mouvement national de désobéissance civile. Près de 850 civils ont péri dans l'implacable répression du mouvement de contestation, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Aung San Suu Kyi fait partie des plus de 4000 personnes détenues depuis le coup d'État.
Accident de train meurtrier au Pakistan.
Au moins 30 personnes ont été tuées et des dizaines blessées ce matin après le déraillement d'une rame dans le sud du pays. Rame qui a ensuite été percutée par un autre convoi en sens inverse. Les secours sont actuellement à l'œuvre afin notamment de désincarcérer les nombreuses personnes encore prisonnières des débris. Un mémorial britannique a été installé sur les plages du débarquement en France. Inauguré hier, il rend hommage aux plus de 22 000 soldats engagés sous commandement britannique et qui ont perdu la vie en 1944 en Normandie. Le monument est composé de 160 fines colonnes de pierre blanche disposées dans un rectangle ouvert, le tout sur une vaste pelouse ponctuée de jeunes arbres. Il surplombe la plage de Gold Beach. Le Maroc rouvre ses frontières aériennes. Le pays a annoncé une réouverture progressive à partir du 15 juin. Après plusieurs mois de liaisons suspendues avec une cinquantaine de pays, deux listes ont été établies avec des règles différentes d'accès. La liste A comprend les pays aux indicateurs positifs, dont ceux de l'Union européenne. Leurs voyageurs devront présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif vieux de moins de 48 heures. La liste B comprend 74 pays où se propagent des variants ou qui ne présentent pas de statistiques suffisantes. Leurs voyageurs devront présenter un test PCR négatif, mais se soumettre également à un isolement de 10 jours.
Toutes les personnes vaccinées peuvent se rendre en Espagne sans condition dès aujourd'hui.
Et les Européens ne doivent plus présenter un test PCR négatif. Un test antigénique beaucoup moins onéreux suffit. Madrid espère ainsi relancer le tourisme. Grand bémol tout de même. L'Espagne est toujours considérée comme pays à risque par le Royaume-Uni. Une quarantaine est toujours imposée au retour de voyage. Et la famille royale britannique compte un membre de plus, Lilibet Diana, fille du prince Harry et de Meghan Markle, est née vendredi matin dans un hôpital de Santa Barbara en Californie. La petite, dont les prénoms sont un hommage à la reine Elizabeth et Lady Diana, pèse près de 3,5 kilos. Pour mémoire, le prince Harry et son épouse se sont mis en retrait de la famille royale. Dénonçant la pression des médias sur leur couple, ils se sont installés aux États-Unis. En tennis, Roger Federer ne disputera pas les huitièmes de finale de Roland-Garros. Incertain par rapport à la suite du tournoi après sa victoire 7-6-6-7, 7-6-6, 7-5 acquise samedi soir contre l'Allemand Dominic Koepfer. Le Ballois a décidé de se retirer. Il préfère ne pas forcer sur son genou opéré deux fois l'an dernier, tout en profitant de se reposer avant la saison sur gazon. Mais après sa longue bataille du week-end qui aura duré plus de 3h30, le Suisse quitte Paris avec des informations précieuses dans ses bagages. Les explications de Roger Federer.
De mon côté, qui aime peut-être bien raccourcir les échanges, ça va toujours être la décision comme un risque que je suis prêt à prendre. Est-ce que je prends trop de risques? Je lui donne un peu, peut-être quelques points, quelques jeux, quelques sets. Ou est-ce que j'arrive encore à rallonger les échanges, voir comment je tiens physiquement, mais aussi mentalement, dans une situation complètement différente de ce que j'ai vécu dans le passé sans spectateur. Alors, non, je suis vraiment trop content et encore une fois, énormément d'informations à prendre pour nous, toute l'équipe et tout. Et c'est aussi un peu le moment pour les remercier parce qu'on a beaucoup travaillé cette dernière année. Pour moi, d'être nouveau sur un terrain, de pouvoir jouer 3h30, c'est pas normal. Ceux qui ont eu des opérations comme ça, ils savent de quoi je parle.
Des propos recueillis par notre envoyée spéciale à Paris, Hélène Scone-Smith. En huitième de finale de cette édition 2021 de Roland-Garros, Roger Federer aurait dû en découdre aujourd'hui avec le numéro 9 mondial, l'Italien Matteo Berrettini.
En hockey sur glace, l'Allemagne se dressera plusieurs fois sur la route de la Suisse l'année prochaine.
Bourreau des Helvètes en quart de finale du championnat du monde, les Allemands n'ont pas fini de poser des problèmes à la sélection de Patrick Fischer. En 2022, les deux nations croiseront le fer aux Jeux Olympiques à Pékin, puis quelques mois plus tard au Mondial. Lors de cette édition finlandaise, les joueurs de la Nati retrouveront aussi dans leur groupe le Canada, la Russie, la Slovaquie, le Kazakhstan et l'Italie. Ces équipes de la poule A en découdront à Helsinki.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch.
La météo avec Elion, votre partenaire pour vos installations solaires, batteries, pompes à chaleur, ainsi que pour la mobilité électrique dans votre région. Elion.ch.
Encore un peu de soleil en ce début d'après-midi, mais Météo Suisse nous annonce l'arrivée de nombreux passages nuageux pour cet après-midi avec des averses et des orages qui vont se généraliser long des Préalpes et des Alpes et prenant un caractère orageux durant cet après-midi. Il va faire jusqu'à 21 degrés en pleine, 17 à 1000 mètres pour ce lundi. Pour demain, le temps sera assez ensoleillé le matin, plus nuageux l'après-midi avec quelques averses possibles l'après-midi le long des reliefs. De 13 degrés le matin, le mercure indiquera 22 degrés au maximum en pleine et à 1000 mètres, 10 degrés au minimum pour demain et 18 au meilleur de la journée. La météo à 6 jours, eh bien, elle est disponible sur notre site radiochablais.ch.